Chapitre 1er, janvier 1941. Ressusciter la République. Le sursaut avait eu lieu. La France ne s'était pas laissée entraîner par une défaite militaire dans la honte du renoncement. Depuis, les armes qui lui restaient avaient montré leur valeur, même si son glaive était encore à reforger. Mais sur le long chemin de la rédemption et de la victoire, il y avait aussi des étapes civiles. 16 janvier, Alger, Assemblée nationale. L'homme qui vient d'entrer dans l'hémicycle improvisé du palais des expositions, costume sombre et cravate noire, s'avance d'un pas lent mais assuré au milieu des pliants installés pour la circonstance. La salle de réunion provisoire de l'Assemblée nationale des élus de la République n'est pas encore achevée. Les spectateurs, journalistes accrédités ou invités triés sur le volet, ne perçoivent qu'un léger brouhaha, l'équivalent parlementaire d'un silence respectueux, malgré la présence des 510 élus de la République, ex-députés et ci-devant sénateurs. Une quarantaine de parlementaires, parmi les plus jeunes, portent l'uniforme. Le kaki domine, mais les spectateurs ne manquent pas de remarquer le bleu Louise du lieutenant Mendès France. Cependant, les journalistes s'apprêtent davantage à gloser sur la peau sombre de Gaston Monnerville, lui aussi vêtu de bleu, superbe dans sa tenue d'officier de justice de la marine. Il sert sur la Provence, vivant symbole de l'égalité et de la fraternité républicaine. Les bancs du gouvernement sont vides. Il s'agit de la première manifestation concrète de la révision constitutionnelle votée en décembre. Le président du Conseil, Paul Reynaud, a présenté hier la démission du gouvernement au président Lebrun. En retour, ce dernier lui a demandé de former un nouveau ministère. Il est maintenant libre de constituer et de remanier son gouvernement à sa guise. Paul Reynaud monte sans hâte les marches menant au pupitre de l'orateur, juste en dessous de celui du président de l'Assemblée, Édouard Herriot. C'est sans surprise que le bouillant lyonnais a repris son perchoir, assisté comme vice-président par le calme et pondéré Jules Jeanneney. Une fois n'est pas encore coutume, la crise ministérielle est gérée par l'exécutif. Les circonstances politiques et militaires font que Paul Reynaud est certain d'obtenir son investiture. Cependant, en ce 16 janvier 1941, ce n'est pas le résultat du vote qui va compter le plus, mais ses modalités. De son pupitre, Reynaud constate que les caméras des actualités françaises libres sont bien présentes et qu'il dispose d'un microphone de la radiodiffusion française qui retransmettra son discours en direct sur Radio Alger. Alors que les murmures s'éteignent tout à fait, le président du Conseil revoit en quelques instants 30 ans de vie parlementaire et de combat politique, avec leurs victoires et leurs défaites, avec surtout la vocation de servir le pays, et quelques convictions bien arrêtées sur la démocratie à la française. En 1924, déjà, il avait déclaré dans une interview au Temps « En France, le régime doit rester parlementaire parce que, fort différent des Allemands et des Italiens, le Français a une individualité puissante. La surveillance policière inhérente aux dictatures révolterait à coup sûr son tempérament et un gouvernement dictatorial, après l'avoir aidé à sortir de ses difficultés, provoquerait fatalement des convulsions nouvelles, fort dangereuses en raison des circonstances extérieures. Et puis, les dictatures ne sont pas éternelles, et leurs suites peuvent être graves. » Ces propos avaient tout d'un avertissement au regard des événements récents et de la tentative de coup d'État politique étouffée dans l'œuf en juin précédent. Grâce au ciel, à ses convictions, et à l'aide de quelques grands patriotes, la volonté de se battre, un moment vacillante, a été la plus forte. Mais la prise de conscience progressive qu'il a fallu craquer sous le poids de la situation continue à le tarauder, tout comme assourdie, mais toujours présente, la douleur du deuil subi le 6 juin avec le décès d'Hélène de Porte. Alors qu'il se retrouve à présent dans la position unique de donner une seconde chance à cette République presque brisée par la défaite militaire, si décriée par une partie des Français et même de son personnel politique, Reynaud songe que cette deuxième chance est aussi la sienne, celle du rachat et de la possibilité de laisser dans l'histoire une autre image que celle de la défaite subie et de l'effacement évité de justesse. Cette nouvelle chance, il est bien décidé à la saisir, pour la France, pour les Français et pour lui-même. Réformer tout en combattant, combattre tout en réformant, réunir tous les Français libres ou sous l'occupation, leur redonner des raisons d'espérer dans leur pays et leurs institutions, voilà le programme qu'il va présenter aux hommes qu'il a contribué à réunir en ce lieu. Loin de la prétendue « révolution nationale » prônée actuellement sous la botte de l'occupant par certains « politiciens fourvoyés », selon l'appellation officielle, il s'agira au moins d'une